Et on va effectivement parler essentiellement de ce Shlach Lecha. Shlach Lecha, c'est la paracha des Braglim. La paracha des espions, l'orateur, on dit. Pour ça, la paracha, elle commence à nous raconter un peu ce qui s'est passé, mais Rachid lui-même va nous dire que il y a certaines parties qui sont plus explicites quand Moshe Rabbeinu nous reparle de la situation dans Parshat Dvarim. C'est-à-dire qu'il faut avoir vous mettez une référence à Shlach Lecha, et une dans Parshat Dvarim, verset 22, du premier chapitre de Dvarim. Donc, dans Dvarim, dans le truc américain, c'est à la page 1000. C'est facile à voir. Assez, d'accord. Donc, chez nous, dans Shlach Lecha, ça commence de façon très classique. Hachem parle à Moshe Rabbeinu, les morts. Shlach lecha anashim, v'yaturu et eretz Kenan. Il lui donne l'ordre d'envoyer des gens qui vont espionner le pays de Canaan, ce pays asher ani noten livnei Israël, ce pays que je donne aux bnei Israël, et tu vas envoyer ish echad le maté avotav, ishlachu. Tu enverras, c'est donc Hachem qui lui dit d'envoyer, tu enverras un homme par tribu, kol nasi bahem. Les gens que tu vas envoyer sont des princes, c'est-à-dire des chefs de tribu. Et effectivement, Moshe envoie ces gens. Les Bnei Israël, dans leur pérégrination, ils en étaient dans le Midbar de Paran. Et le passouk dit, Vaishlach otam Moshe mi Midbar Paran, al pi Hashem, sur l'ordre d'Hachem, littéralement. Kulam anashim rachet bnei Israël hema. Tous, c'étaient des gens, des chefs des bnei Israël. Et voici la liste. On nous donne la liste. Et à la fin de la liste, on dit que Moshe Rabbeinu vaikra Moshe le Hoshea. Hoshea, qui était le prince de la tribu d'Éphraïm. Il lui change son nom. Il s'appelait Hoshea et il met un yud devant, de telle sorte qu'il a, grâce à cela, il a les trois premières lettres du nom divin dans son nom. Il s'appelle Yoshua. Alors on va regarder Rashi. D'abord, Rashi fait une introduction, et comme plusieurs fois dans ces dernières parshiyot, Rashi ramène le Chazal qui demande Lama nismecha parshat Amraglim, le parshat Myriam. Pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé cette parasha des explorateurs, espions, à la parasha qui est la dernière parasha de la semaine dernière? Qui est la paracha dans laquelle Myriam a dit du lashon hara sur Moshe et où elle a été frappée de tsahat. Il faut bien entendre que tsahat, c'est une forme de touma, mais c'est une touma qui entraîne que la personne frappée de cette touma-là, elle est exclue de tous les camps. Les différents, les trois camps qu'il y avait autour du Mishkan. Elle est complètement isolée, personne ne lui parle. Et d'une certaine manière, dans Chazal dit que c'est une forme de mort. C'est-à-dire, elle est socialement morte. Personne ne lui parle, elle est complètement toute seule, isolée. Donc, on a un exemple, enfin, on a un sujet qui était le sujet de la semaine dernière, la fin de la semaine dernière, qui est la sanction d'un lashon hara. Et c'est une sanction très lourde. Bon, alors chez Myriam, grâce à la prière de Moshe Rabbeinu, ça a été un peu allégé, mais c'est une sanction très lourde. Alors Rachid dit, pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé l'histoire des Meraglim? Parce que elle a été punie et frappée parce qu'elle a dit de la Shonara sur son frère, Vareshaim alalu. Et ces Reshaim-là, Raoult, ils ont vu que Myriam a été sanctionnée, Velo la Krumosa, et n'en ont tiré aucune leçon. Donc, avant toute chose, d'abord ces gens-là, bon, Rashi va très très vite en besogne parce qu'il les appelle des Rechaïm, alors que pour l'instant, ce qu'on nous a dit, c'est que c'était des princes, chefs de tribu. Mais lui, il les appelle déjà, par rapport à ce qui va se passer par la suite, il les appelle déjà des Rechaïm. Alors, ce qui est important ici, c'est Rashi dit que la première chose qu'on apprend dans cette paracha, dans cette juxtaposition, c'est que ce dont on est spectateur, ça doit nous servir de leçon. Ça veut dire que si tu vois quelque chose, tu entends quelque chose, quand on dit ça au nom du Baal Shem Tov, c'est que tu devais l'entendre, tu devais le voir. Et les Baalei HaMussar, ils disent, par conséquent, tu devais en tirer un enseignement. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est des choses qu'on s'est aperçu que quand tu étais spectateur de quelque chose, dans ton cerveau, les mêmes endroits qui sont mobilisés quand on fait la chose, ces mêmes endroits sont mobilisés quand on voit la chose. Ça veut dire que d'avoir vu, ça laisse une trace dans ton corps comme si tu l'avais fait. Et donc c'est pour le coup que il faut apprendre quelque chose. Parce que ça veut dire quelque part, il y a une trace dans ton cerveau de la chose en question. Donc, quelque chose dans leur cerveau était inscrit qui était que faut faire bien attention à ne pas dire du lashon hara, parce que concrètement, même si tu es Myriam, la sœur de Moshe, tu vas être sanctionné très durement. Ça ne va pas les empêcher de dire du lashon hara, ou du shem ra, sur la terre d'Israël. Alors, il y a un problème, parce que quand Hachem a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu d'envoyer des gens en espionnage, il aurait dû dire « Shlach Anashim v'yaturu » envoie des gens qu'ils aillent espionner. Alors, si vous regardez le texte ne dit pas Shlach Anashim Yaturu, mais Shlach Lecha Anashim. Qu'ils ont traduit, par exemple, dans le Envoie sur ton initiative. Shlach Lecha. Lecha, c'est pour toi. Ton initiative, ou bien parce que toi, tu le veux. Alors, Rashi, il explique le Shlach Lecha. Regardez. Shlach Lecha, Leda'atcha. Donc, Hachem lui dit, c'est ton date. C'est selon ce que toi, tu comprends, selon ta compréhension des choses, selon ton évaluation, selon que tu penses que c'est bien. Annie, alors regardez ce qu'il dit, là, il faut s'accrocher. Annie, eini metzavé lecha. Non, ça commence, Vaïdaber Hachem el Moshe, shlach. Shlach, ça veut dire envoie, c'est un ordre. Hachem dit, je te donne l'ordre, mais en vérité, ce n'est pas un ordre. C'est pas moi qui te le dis. Je ne te dis pas de le faire. Eini metzavé lecha. Je ne te l'ordonne pas. Im tirtze shlach. Si tu veux, envoie. Pardon? Y a quoi? Oh. Ah oui. Mais Yankele, il était déjà là avant. Il est reparti. Donc voilà, ça ne se met pas facilement en place. Ah voilà, il y est. Voilà. Bien,
Merci.
alors, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, c'est très, très étrange. Cet ordre-là, il n'en est pas un. Et ensuite, il est précisé que, par exemple, les gens qui ont été envoyés, ils ont été envoyés à Alpi Hachem. Visiblement, c'est Hachem qui a choisi les gens. Pour quelqu'un qui ne veut pas lui ordonner. C'est-à-dire, quelque part, je fais ce que toi tu vas dire. Là, c'est Hachem qui laisse Moshe Rabbeinu décider dans cette situation. En lui disant, très bien, moi je te le donne, ordonne pas. Jusque-là, on ne sait pas, bon, Hachem n'a pas envie, il n'a pas envie qu'on envoie des explorateurs, on n'a encore rien entendu de pourquoi Hachem ne veut pas. Alors on lira dans la suite de Rashi. Et Rashi dit, le fils Ebaou Israël ve'amrou, Nishlecha Anashim Lefanenu. Les Bnei Israël sont venus et ils ont proposé, envoyons des gens, des éclaireurs, envoyons des gens en avant, avant nous, pour explorer. Alors regardez, allez dans Dvarim, dans le Passouk Kavet, chapitre 1. Moshe Rabbeinu, là, au tout début de. C'est le Sefer Dvarim, c'est le testament de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il passe en revue les choses et il leur dit. Vatikrevun elai kulchem. Vous vous êtes approchés de moi. Tous, Vatomru, et vous avez dit, Nishlecha Anashim Lefanenu, envoyons des gens en avant devant nous, Veyachperu lanu et Haaretz, ils vont espionner pour nous le pays, Yashivu otanu davar, ils nous feront un rapport et nous dirons et aderech asher na'aleba, ils nous diront par quel chemin est-ce qu'il faut envahir cette terre, il faut entrer dans cette terre. Vetéharim, ils nous diront ce que sont les villes qu'on va devoir conquérir. Et Moshe Rabbeinu nous dit, Vayitav beinai, la chose m'a plu. C'était bien à mes yeux. Vaikach mikem, et j'ai pris parmi vous, shnemasar anashim, ish'echad la shavet. 12 personnes, un homme par tribu. Donc, c'est pas exactement. Là, on voit très bien comment ça commence. Et déjà, alors, donc, évidemment que quand Moshe raconte ça, c'est après la tragédie. Alors, le Rashi sur place, sur Vatikrivun Elai Kulchem, vous vous êtes approchés tous de moi. Rashi dit Be'irvuvia, en désordre. Ulealan ou Omer, Vatikrivun Elai Kol, Rashi Shivtechem, Ziknechem, Vatomru, Hen, Heranu, etc. Ota Kriva, ce rapprochement des Bnei Israël autour de Moshe, Aïta Ogenet, la deuxième qui est citée, ça c'était bien. Yeladim, Mechabdim, les jeunes donnent du kavod aux anciens, Shalchum Nifnehem, et les laissent passer devant eux, Skenim, Mechabdim, Metarachim. Les anciens donnent du kavod au chef, Alechet Lifneyem, ils leur disent de marcher devant nous. Avalkan, mais là, maintenant, quand vous êtes venus me proposer d'envoyer, Vatikrivun Elai Kulchem Be'irvuvia, Yeladim Dorchim Taskenim, les jeunes poussent les vieux poussent les chefs. Et sur le passouk, Vayitav Be'enai Adavar, la chose même m'a paru bonne. Rashi dit, Be'enai Velo Be'enai Amakom. Moi, ça m'a plu, mais Hachem, là, ça lui a pas plu du tout. Ve'im Be'enai Moshe Ayatov, Lamra Amara Etochachot. Alors ici, le début du Sefer Dvarim, c'est une suite de remontrances que Moshe Rabbeinu fait au Bnei Israël. Alors Rashi demande, puisque aux yeux de Moshe, la chose était bonne, pourquoi il leur fait des remontrances maintenant? Machal le Adam, Sheomer le Chavero, il donne une parabole. Un dit à son copain, il lui dit, Mahourli Hamorcha, Zé, vends-moi cet âne, ton âne, celui-là. Amarlohen, l'autre lui a dit, ok, d'accord. Notno ata li le nisayon. Est-ce que je peux l'essayer? Amarlohen, oui, tu peux. Il a dit, je peux aller Béharim ou Gbaot, l'emmener par veau, par mont et par veau pour voir comment il se comporte. Oui. Ivan Shera, Klum. Quand il a vu qu'il y avait que tout était parfait, il a tout essayé. Amar Alokach Belibo. Alors l'acquéreur, il s'est dit en lui-même, va tout accuser chez l'OM Sabo Il puisqu'il me permet tout, c'est qu'il est sûr que je trouverai aucun défaut. Sinon, il m'aurait pas permis. Miad amarlo tulmaotecha. Le type, il n'a pas essayé, il a dit, on prend ton argent, voilà, je te paye, je l'achète. Eni menacé ou, mais attends, je n'ai pas besoin d'essayer, je vois que tu es sûr de ton coup, puisque tu me permets tout. Donc. Et il dit, Afani, odetil et divrechem. Moi aussi, j'étais d'accord avec ce que vous avez dit. Shema tarzuru bachem, shetiru, sheinomakev. Parce que j'avais l'espoir que vous n'envirez pas, puisque vous voyez que je m'y oppose pas du tout. C'est une espèce de stratégie de Moshe Rabbeinu, de dire, OK, en pensant que si je leur permets de le faire, ils n'auront pas besoin de le faire, quoi. Vatem, lo chazartem bachem, mais ça n'a pas marché. Vous avez insisté pour le faire quand même. Et j'ai pris parmi vous, et là Rachid dit, Mina brurim shebachem, sur les plus clairs d'entre vous. Amsulatim. Solette, c'est la farine 13 fois tamisée, c'est-à-dire c'est la crème de la crème, j'ai pris. Bon, alors il n'y avait pas la tribu de Lévi. Parce qu'il a fait un compte de 12 et il y a Ephraïm et Ménaché, donc il n'y a pas la tribu de Lévi. Reviens dans la prépa. Mon cher Rabbi nous les a envoyés. Il leur a même dit comment il fallait entrer dans le pays par le sud, etc. Et il leur a donné la feuille de route. Il lui a dit, vous passez par le sud, vous montez par la montagne, et vous allez voir Aharetz Mahi, vous allez voir la terre, comment elle est. Aham, Yoshev Alea, vous allez regarder le peuple qui habite là-bas, et Chazakou et Raphaël. Est-ce qu'il est fort ou faible? Est-ce qu'il est nombreux ou peu nombreux? La terre sur laquelle il réside, c'est une bonne terre ou une mauvaise? Est-ce que les villes sont fortifiées, pas fortifiées? Est-ce qu'ils sont sûrs d'eux? Est-ce que la terre est grasse, pas grasse? Regardez, Ayesh, bah, est-ce qu'il y a un arbre? Là-bas, c'est pas un problème, c'est pas vraiment un arbre. Savoir est-ce qu'il y a des tzadikim, des gens qui les protègent. Et vous prendrez des fruits du pays. Bon, témoignage de. Et on nous dit que c'était la saison des vendanges. Ils l'ont fait. Ils ont espionné tout le pays. Sont allés jusqu'à Hébron. Ils ne sont pas vraiment allés. Le seul qui est vraiment allé à Hébron, c'est Caleb. On va voir plus loin. Il y avait là-bas des géants. Et ils ont pris des fruits. Ils ont pris des grappes et de raisins, etc., des grenades, et des fruits absolument gigantesques. On n'avait jamais vu des fruits pareils, on n'en verra jamais plus d'ailleurs. Et dans le verset 25, Vayashuvu mitur haaretz, iketz. Ça leur a pris 40 ans pour faire, pour espionner tout le pays.
40 jours.
Et ils reviennent. 40 jours, pardon, pas 40 ans. 40 jours. Vayelchu, vayavo el Moshe, vayelaron. Ils reviennent, se présentent devant Moshe et Aaron, vel kol adat bnei Israël, toute la communauté des bnei Israël. On est toujours dans le Midbar de Paran. On est à Kadesh, l'endroit qui s'appelle Kadesh. Et ils font leur rapport à toute la communauté et ils montrent les fruits du pays qu'ils ont ramené. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils s'approuvent l'eau et ils lui ont raconté. A priori, ça veut dire que ça s'adresse essentiellement d'abord à Moshe. Et ils disent, Banu el Haaretz, Asher Shlachtanu, nous sommes arrivés dans le pays où tu nous avais envoyés. Vegam, Zavat Chalav Udvashi. C'est effectivement un pays où coule le miel. Zepiria, et voici le fruit extraordinaire. Donc jusque-là, ils ont fait un éloge complet de la terre d'Israël. C'est exactement ce que vous nous avez dit. Mais maintenant vient le mot. Le mot qui est prononcé là, ils disent Éphès. Éphès en hébreu moderne, ça veut dire zéro. Ça veut dire tout ça sert à rien. Pourquoi? Parce que le peuple qui réside dans ce pays est beaucoup trop fort. Il est puissant. Les villes sont des villes fortifiées, très fortifiées. On a vu des géants qui disent, jusque-là c'est possible que c'est vrai. Mais maintenant ils disent Amalek Yoshev Baaretz, Beretz Anagev. Ici, Amalek qui au sud, mais Amalek, ce n'est pas le territoire d'Israël. Mais comme Amalek, ça a une mauvaise réputation, les Bnei Israël, ils ont peur. Amalek, il faut leur faire peur, donc ils citent. C'est comme si Amalek était aussi dans le pays. Et du coup, en fait, tout le monde s'est mis à pleurer, quoi. Et Caleb, qui était le seul des explorateurs, on ne parle pas de Joshua parce que Joshua, il était hors concours, dans la mesure où il avait été protégé par Moshe Rabbeinu. Les 10 explorateurs qui complotaient, ils ne se sont pas occupés de Joshua, ils ne l'ont pas pris dans le. Mais Caleb, il l'a pris avec eux. Et là, il y a un murmure contre Moshe Rabbeinu, etc. Et le pasouk dit, Vayahas Caleb et Aham el Moshe. Eux, ils ont traduit, Caleb fit taire le peuple à l'endroit de Moshe. Pourquoi est-ce qu'on s'est marqué el Moshe? Ils voulaient faire taire le peuple. Pourquoi ils ont marqué el Moshe? Parce que la tactique de Caleb, c'est qu'il a commencé à parler de Moshe, et il a commencé à parler de Moshe en l'appelant Ben Amram. Bon, ça, c'était la. C'est vrai, il n'y a rien de mal, mais c'est comme ça que les ennemis de Moshe l'appellent pour essayer de. Il n'a même pas. On ne parle pas de son nom, on l'appelle Ben Amram. Il a commencé en disant, est-ce que Ben Amram, est-ce que c'est tout ça qu'il nous a fait? Donc les gens pensaient qu'il a commencé à énumérer tout ce que eux reprochent à Moshe Rabbeinu. Mais justement, comme les gens se sont tus, ils l'ont écouté. Et du coup, il a commencé à expliquer, il nous a sortis d'Égypte, etc. Il a fait l'éloge de Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, les 10 autres ont compris qu'il n'était pas parmi les, il faisait pas partie du complot, enfin, il n'était pas d'accord. Alors, ils ont commencé à dire du mal. Ils ont dit, l'on nous la l'arme. On ne pourra pas vaincre ce peuple. Il est plus fort que nous. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est que il n'était pas question que les Bnei Israël aillent faire la guerre contre les peuples. Comme si les Bnei Israël étaient un peuple comme un autre, il va faire la guerre contre un peuple. C'est vrai que sur le papier, qu'est-ce que c'est les Bnei Israël? C'est quoi? C'est une troupe d'esclaves fraîchement libérés. Il ne doit pas y avoir beaucoup de stratèges parmi eux. C'est évident que, à vue humaine, ils n'ont aucune chance. Mais il n'a jamais été question d'y aller tout seul. Et on voit très bien que les Chazal ont été médaillés les mots en disant, quand ils ont voulu dire que le peuple était plus fort que nous, ils ont utilisé le pronom. Il est plus fort, mimenu. Or, la graphie de mimenu, c'est la même que mimeno. C'est la même chose que tu écrives Mimenu ou Mimeno. C'est la même chose. Mimeno, ça veut dire plus fort que lui. Et le lui en question, c'est qui? C'est Hachem. Donc, ce n'est pas qu'ils ont dit Mimeno, mais d'avoir choisi Mimenu comme mot, il aurait dû dire plus fort que le peuple d'Hachem ou n'importe quoi, quelque chose, un autre nom. Un nom, peut-être pas, ou un autre nom. Et là, à ce moment-là, Vayotsi ou Dibat Haaretz, Asher Taruota. Et ils ont commencé à dire du mal de la terre qu'ils avaient espionnée au Bnei Israël en disant, Haaretz, Asher Avarnuva, la Tourota, le pays que nous avons parcouru pour l'espionner, Eretz Ochelet Yoshvei Ahi. C'est un pays qui mange ses habitants. Mais les gens qu'on a vus sont tous des géants. Et à leurs yeux, et nous-mêmes, pardon, on se voyait comme des sauterelles à leurs yeux, et c'est comme ça qu'ils nous voyaient. Ça, par exemple, il ne peut pas le savoir. Que eux se soient sentis comme des sauterelles par rapport à des géants, c'est bon. Mais savoir comment les goïms voyaient les juifs, ça, ils n'en savent rien. Mais bon, avec autant d'assurance, c'est comme ça qu'ils nous voyaient aussi. Ils ont dit que la terre était une, le pays était un, ou la terre, le pays est un pays qui mange ses habitants. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que partout où ils arrivaient, il y avait un enterrement. Partout où ils arrivent. Alors, ils ont fait une théorie Les gens, ils deviennent très très grands, mais ils vivent très très peu longtemps. Ils meurent tout de suite. Les géants, mais ils meurent. La question, évidemment, bon, c'est vrai que quand partout où vous arrivez, il y a un enterrement, vous avez bien cette impression que le pays manque d'habitants. Bon, maintenant, ça c'est une théorie, c'est une explication possible. Et on va le reprocher, ça. On va le reprocher d'avoir dit cette chose-là. En fait, tout le problème des Meraglim, c'est qu'on leur a demandé une information. Et eux, ils sont venus avec un commentaire. C'est ça le problème, et c'est ça le problème d'aujourd'hui aussi. Les fameuses chaînes d'information, etc. Il n'y a absolument aucune information, il n'y a que des commentaires. Les gens expliquent les choses, quand ils les présentent, ils leur présentent, ils ne présentent jamais les faits bruts. C'est un safek si on peut décrire des faits bruts. Là, dans leur rapport, il y aurait dû avoir. Partout où nous sommes arrivés, il y avait des enterrements. Point barre. Sans expliquer, ça veut dire que le pays mange ses habitants. L'interprétation, ce sera Moshe qui la donnera ou c'est tout. C'était ça qu'il devait dire. Alors maintenant, quand on regarde la chose, c'est vrai que la première idée qui vient, c'est plutôt pas loin de celle-là, c'est le pays qui mange ses habitants. C'était quoi l'autre explication possible? L'autre explication, c'était de dire 12 personnes, des étrangers, qui se baladent partout, ils vont tout de suite être repérés. Ce n'est pas des gens de chez nous. Et donc, pour faire en sorte qu'il puisse passer un peu inaperçu, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que là où ils arrivaient, il y avait un enterrement. Parce que quand il y a un enterrement, il y a un brassage de population. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout et qui viennent pour l'enterrement. Donc il y avait des possibilités pour eux de passer plus inaperçus que s'il n'y avait pas eu d'enterrement. Alors maintenant, ça veut dire que, disons, comme ça, devant ce qui leur arrive, il y a deux interprétations. Le pays mange ses habitants, ou Hachem nous protège et il nous a, en quelque sorte, trouvé il a trouvé un moyen de nous cacher un peu. C'est sûr que la première idée qui vient, c'est le pays mange ses habitants. Sauf que ces gens-là, c'est des gens qui sont sortis d'Égypte. C'est des gens qui ont passé la mer. C'est des gens qui ont reçu la Torah. Ils vivent dans une bulle. Hachem leur fournit quotidiennement. Et donc, a priori, la deuxième explication, c'est une explication qui est beaucoup plus cohérente avec tout ce qu'ils ont vécu jusque-là. Mais c'est sûr que si tu es prêt à interpréter ça en disant c'est le camouflage qu'Hachem a choisi pour nous, alors tu ne peux pas ensuite venir dire on n'y arrivera pas. Hachem te protège même au moment où tu vas espionner. C'est sûr que quand tu vas faire la guerre sur l'ordre d'Hachem, bien sûr qu'il va te protéger. Donc ce sera possible. On voit bien que c'est possible. Si Hachem va changer l'ordre du monde, il va faire mourir des gens pour que nous passions inaperçus. Mais évidemment, l'explication, le pays mange ses habitants, c'est une explication qui va dans leur sens à eux. Ça va dans le sens de cette terre n'est pas bonne. Ils n'avaient pas dit au départ qu'elle n'était pas bonne, au contraire, ils ont dit qu'elle était bonne parce que il faut qu'il y ait un peu de Emmet dans le Sheker, dans le mensonge. Sinon, le mensonge ne tient pas. Et donc, il y a un complot. Les gens, ces gens-là, qui ont été choisis, qui sont la crème de la crème, ces gens-là ne veulent pas entrer en, ils veulent pas entrer en Eretz Israël. Pourquoi ils ne veulent pas entrer en Eretz Israël? Parce qu'ils savent très bien que lorsqu'ils vont entrer en Eretz Israël, ils ne seront plus les chefs des tribus. Pas parce qu'ils auront démérité. Ah, quelqu'un là que je... Comment tu sors de ça? Pardon? Pardon, c'est... Ouais, celle-là, là, le New Club. Encore?
C'est là.
Tu vois ça?
Non,
Tu es là? Ah voilà, ça y est. Merci. Oui, alors, la raison pour laquelle ils ne seront plus les chefs de tribu. C'est parce que pour être un chef de tribu, il faut avoir, alors d'abord, il faut avoir des relations avec, avec la tribu, les gens de la tribu en question. Et puis, il faut être adéquat pour diriger dans un temps et dans un lieu bien précis. Alors, eux sont des chefs qui sont là pour la période du désert. Ils sont les chefs adéquats, la preuve c'est qu'ils ont été choisis. Ils sont tout à fait adéquats pour diriger le clan Israël dans le désert. Et quand les Bnei Israël vont entrer en Eretz Israël et qu'ils vont devoir vivre une vie complètement différente, sortir de la bulle dans laquelle ils vivent jusqu'à présent, eux ne seront pas qualifiés. Il faudra des gens qui aient d'autres qualifications. Donc ils savent que ce ne sera pas eux. Et ils n'ont pas envie de lâcher. On peut aussi dire que ils n'ont au fond pas vraiment envie de se confronter aux réalités du monde. Ils vivent dans une situation où ils sont complètement pris en charge. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est l'étudier. Il n'y a aucun souci, d'aucun ordre. Complètement pris en charge par Hachem. C'est presque, de ce point de vue-là, c'est presque comme quelqu'un qui choisit d'être esclave. Il choisit d'être esclave, on a déjà parlé, c'est quelqu'un qui refuse de se confronter aux réalités de la vie. S'il est esclave, il n'a pas de problème de. Il est sûr d'être nourri, logé, blanchi probablement aussi, lui et toute sa famille. Et en tout cas, pendant 6 ans, il est tranquille. Il n'a pas aucun souci, aucun ordre. Alors bien sûr, ils ne deviennent pas esclaves, mais l'idée qu'il y a derrière l'esclavage choisi, et là aussi, quand tu choisis la bulle. Alors, on aurait pu dire plus positivement, il voulait ne se consacrer, enfin, n'avoir affaire qu'à étudier, en quelque sorte. Bon, mais ce n'est pas la volonté d'Hachem. Hachem n'a pas créé le monde pour que on ne fasse que cela tout de suite. C'est quelque chose qui est. Si vous voulez jouir de la présence divine, etc., ça c'est pour Olam Haba, et c'est un Olam Haba auquel on accède après avoir passé et travaillé dans Olam Hazeh. Et eux, ils veulent pas travailler dans Olam Hazeh. Ou alors ils pensent qu'on a déjà travaillé suffisamment quand on était esclave. Mais ce n'est pas la volonté d'Hachem. Donc, ils vont refuser. Et pour refuser, ils sont entraînés à dire du mal. Si par exemple, ils avaient dit, mais nous, on ne veut pas aller en Eretz Israël parce qu'on veut pouvoir se consacrer entièrement à l'étude de la Torah, je ne sais pas ce qu'aurait été la réponse. Il faut pas faire la. L'histoire de fiction, quoi. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'Hachem aurait dit? S'il l'avait vraiment ressenti. Il ne s'agit pas de le dire si on ne le ressent pas. Pourquoi ils ont dit beaucoup de mal? Mais en réalité, ça va déboucher sur un désastre de première grandeur, puisque Hachem va proposer à mon père Rabbeinu, il va lui dire, on arrête avec eux, j'arrête avec ces gens, et je commence avec un nouveau peuple avec toi. Vous tournez une page dans le passouk, chapitre Yud-Dalet, la troisième montée en fait. Chapitre Yud-Dalet, passouk Yud-Alef. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe Rabbeinu, Ad ana inatsuni ha'amaze. Ve'adana lo ya'aminu bi bechol ha'otot asher asiti bekirbo. Jusqu'à quand ce peuple me mettra en colère? Jusqu'à quand est-ce qu'ils n'auront pas confiance en moi, malgré tous les signes que j'ai faits dans son sein? Voilà, c'est terminé. Akenu La dévers vient de frapper de la peste en vérité. Je vais l'anéantir. Et Vese otra le Goy Gadol Veatsum Mimenu. Et je ferai de toi un peuple plus grand et plus puissant que ce peuple-ci. Donc Hachem propose à Moshe, on recommence un nouveau peuple. Celui-là est, ce peuple-là, il est insupportable. Sous-entendu, bon, c'est tout. Ils ont dépassé toutes les bornes. Alors, bon, on va revenir là-dessus, mais la réponse de Moshe Rabbeinu est aussi très intéressante. Parce que qu'est-ce que Moshe fait? Bon, évidemment, Moshe va dire non. Suis pas partant. Mais comment, qu'est-ce qu'il va répondre à Hachem? Hachem dit, c'est insupportable. Je vais les détruire. Alors, Moshe Rabbeinu dit à Hachem, regardez le texte. Veshamu Mitzrayim. Et les Égyptiens, ils vont entendre que Elita, Bechoracha et Amazé Mikirbo, que tu as sorti ce peuple du sein des Égyptiens, et ils vont dire, donc ces Égyptiens dont auxquels tu as arraché le peuple juif, en fait, ils vont dire, El Yoshev à Aretzazot, ils vont dire, au sujet de des gens qui sont là, dans ce pays, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Mibilti Yocholet Hashem, dans l'incapacité où Hashem a été, le verset 15, le 16, Lehavi et Amazé et la Ares Asher Nishbalaem. Hashem a été dans l'incapacité d'amener ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis de leur donner. Il a détruit le peuple. Bamidbar. Il les a tués dans le désert. C'est-à-dire, mon cher ami nous dit à Hachem, si tu fais ça, tu fais un chilul Hachem. Tu profanes ton nom. Les gens vont dire, que t'es pas capable. En vérité, tu es un menteur, tu n'es pas vraiment capable, tu n'étais pas vraiment capable de les amener, et de dépit, tu les as tués. Et donc finalement, Moshe va demander à Hachem, pardonne l'iniquité de ce peuple. Comme tu lui as pardonné depuis l'Égypte jusqu'à maintenant, ils n'ont pas arrêté de se révolter, tu as toujours pardonné, continue de pardonner. Alors Hachem dit à Moshe, ok, je pardonne selon ta parole. Mais tout comme je suis vivant, et la gloire d'Hachem emplira toute la terre. Ainsi, tous les hommes qui ont vu ma gloire, mes signes, les signes que j'ai opérés en Égypte, dans le désert, qui m'ont éprouvé, voilà 10 fois, et n'ont pas écouté ma voix, s'ils voient la terre que j'ai juré de donner à leurs ancêtres, et tous ceux qui m'ont irrité ne la verront pas. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'un esprit différent a été avec lui et qu'il m'a suivi avec intégrité, je le conduirai dans la terre où il est allé et sa descendance la possédera. Et Hachem va parler à Moshe et à Aaron et il va annoncer que tous ceux qui avaient plus de 20 ans, donc étaient adultes à la sortie d'Égypte, ceux-là n'entreront pas. Et donc, leurs enfants vont errer dans le désert jusqu'à ce que, pendant 40 ans, Yom la Shana, c'est-à-dire pour un jour d'exploration, ce sera une année d'errance. Et on va avoir cette situation où le peuple le juif qui va entrer, le peuple qui entre en Eretz Israël, il est à part Caleb et Joshua, il est composé uniquement de la jeune génération des hommes. Par contre, les femmes ne sont pas mortes. Parce qu'en réalité, comme ça que le Gaon de Vilna explique, la condamnation des Bnei Israël à mort, qui est dite ici, elle a été dite de façon beaucoup plus claire après le veau d'or. Et là aussi, mon cher Rabbeinu a réussi à obtenir beaucoup plus difficilement encore, mais le pardon d'Hachem. Mais le Gaon avait dit que le pardon en question, c'est un sursis. Et le sursis, il tombe avec les explorateurs. Donc la peine de mort, c'est la mort consécutive au veau d'or. Et les femmes n'ont pas fait le veau d'or, elles n'ont pas donné leurs bijoux. Les bijoux ont été arrachés par les hommes. Donc elles ne méritaient pas la peine de mort et donc elles ne meurent pas. Donc c'est un peuple assez déséquilibré qui va entrer en Eretz Israël, si on peut. C'est un peuple avec beaucoup de veuves. Ces femmes sont les veuves, celles qui avaient des maris qui sont morts dans le désert. Si elles sont peut-être elles mortes de vieillesse, mais elles ne sont pas mortes comme ça. Et donc il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont là, qui sont des veuves, qui vont entrer avec leurs enfants. On a donc là, on voit ici la technique de Moshe Rabbeinu, en fait. Pour sauver les Bnei Israël, il a fait valoir à Hachem que tu peux pas les tuer, t'es coincé. Parce que sinon, on va dire que si tu les tues, c'est que c'est parce que tu n'arrivais pas à faire ce que tu avais promis. Donc Hachem s'est coincé lui-même, quoi, si vous parlez comme ça. Oui.
Tout le monde a pleuré.
Tout le monde a pleuré, mais ça ne les a pas disqualifiés au point de mourir. Bon, elles ont quand même subi la mort de leur mari, quoi. Quand même, voilà, déséquilibre, mais elles-mêmes, elles ne sont pas mortes, a priori. Alors, en vérité, ce qui est peut-être le plus dérangeant de tout dans cette affaire, c'est que je n'ai pas lu tout le Rashi avec vous de Shlach Lecha. Parce qu'il est assez effrayant en vérité. Le Rashi qu'on avait commencé à lire, où Hachem avait dit, je te dis pas du tout de les envoyer, tu fais ça toi-même. Et quand les Bnei Israël ont demandé à envoyer, il a consulté Hachem. Et Hachem lui a dit, Ani amarti lahem shi tova. Moi, je leur ai dit que la terre en question était bonne. Chez Neymar, il amène un pasouk. Elle est etrem, mais Ani Mitzrayim. Je vous ai fait monter de la pauvreté de l'Égypte, etc. Alors Hachem a dit, Chayehem, c'est un serment d'Hachem. Hachem jure, Shani noten lahem makom lit'ot. Je jure, je leur donnerai une possibilité de se tromper. Le divrei Amraglim. Avec les paroles des Meraglim. Ils vont écouter les paroles des Meraglim et ils vont les prendre au sérieux. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Regardez le texte, c'est effrayant. Le man, lo irashua, pour qu'il n'hérite pas de la terre. Ces gens qui demandent, envoyer alors que j'ai dit qu'elle était bonne, qui ne me font pas confiance, je vais faire en sorte qu'ils se trompent et qu'en conséquence, ils n'héritent pas de cette terre. Donc ces gens-là ne vont pas hériter de la terre, la terre va être héritée par leurs enfants, etc. Mais eux n'hériteront pas de la terre. Donc c'est absolument terrible. Ça veut dire que Hachem dit à Moshe, bon, je vais accepter, et dans cette acceptation à laquelle je vais faire comme, je vais contribuer, je vais désigner, chez nous c'est marqué que c'est, semble-t-il, Hachem qui a désigné les gens. Dans Dvarim, Moshe Rabbeinu nous dit que c'est lui, mais bon. Lui, d'après l'ordre d'Hachem. Et Hachem dit, c'est un piège. Et en réalité, quand Moshe Rabbeinu change le nom de Hoshéa en Yoshua, c'est écrit dans Rashi, Nitpalel alav. Il a prié pour Yoshua, Ka Yoshiacha, le nom divin Ka qu'il a mis maintenant au début de son nom, qu'Hachem te sauve, te protège, mais Atsat Meraglim, du complot des Meraglim. Donc mon cher Abbé le sait très bien qu'il va y avoir un complot. Et que, semble-t-il, Yoshua n'est pas de taille à résister à un tel complot. Donc il s'appelle Hoshéa. Et donc il le renforce en mettant le nom d'Hachem dans son nom. C'est-à-dire que quelque part, il change son programme. Il le rend ainsi capable, ou bien il le rend, comme c'est, bon, les gens ont dû entendre qu'évidemment il a changé de nom. Donc, ils ont dû se dire, lui, il est trop proche d'Hachem, on ne va pas le prendre dans le complot. Il y a deux possibilités d'échapper au complot, ou c'est quand ils te proposent de comploter avec eux, tu es assez fort pour leur dire non, ou alors ils ne te proposent pas. Hachem l'a protégé en faisant en sorte qu'on ne lui a pas proposé. À Caleb, ils l'ont proposé, mais Caleb, il était tellement fort qu'il est allé prendre conseil, enfin essayer de s'inspirer de la démarche des Avot, il allait à Hébron, lui il est allé Les autres sont allés, mais ils sont pas allés jusqu'au bout à Hébron. Lui, il est allé. Et donc, on a une question quand même. Visiblement, non seulement Hachem leur fait un piège, eux, ils n'entreront pas. Et Moshe Rabbeinu, il sait aussi qu'il va y avoir un complot et les envoie quand même. Dire quoi? Comment est-ce qu'on peut comprendre que Moshe Rabbeinu les envoie quasiment à la mort? Parce que la Gemara, elle va décrire la mort des explorateurs eux-mêmes. Tout le monde va mourir, mais la mort des explorateurs eux-mêmes, c'est absolument, la Gemara, elle le décrit, c'est terrible, quoi, ce qui leur est arrivé. Alors, je sais pas comment, c'est pas vraiment quoi dire. Est-ce que Moshe a compris et il a compris qu'Hachem veut les piéger? Et lui, il a pensé que, bon, ben, si Hachem veut les piéger, ça veut dire que, d'une certaine manière, ils sont déjà morts avant de partir, quoi. Donc à la limite, tout le reste, c'était du cinéma. Mauvais cinéma. C'est ce qu'Hachem dit à la fin. Enfin, il dit, j'en peux plus. Jusqu'à quand ils ne me font pas confiance? Oui, en vérité, si vous n'y croyez pas, ben, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, c'est, enfin, ça me semble assez difficile d'entendre. Alors, quelque part, c'est déjà perdu, quoi. C'est ouais, bien sûr. Ils ne font pas confiance, mais c'est ce qu'Hachem dit. J'en peux plus. Ça fait 10 fois que qu'il me manque de confiance. Alors finalement, au lieu de détruire le peuple comme, et de construire un autre, il a finalement détruit que, en gros, une génération, quoi. Donc, eux, ils n'en pourront pas. Et ce qui va changer, c'est disons, à l'échelle du clan d'Israël, c'est que désormais, dans le clan d'Israël, il n'y aura plus, à part Yoshua, les gens ne pourront pas dire qu'ils ont expérimenté les choses. Ils seront tous des gens qui auront eu un récit de ceux qui l'ont expérimenté. Ils l'ont vécu comme enfant, éventuellement, et ils l'ont récit. Ça veut dire que le soir du Seder, en quelque sorte, en Eretz Israël, personne ne peut dire j'y étais. Pas le soir avec Alep. Tout le monde va dire ah ouais, on nous a raconté. Et d'ailleurs, c'est assez compliqué parce que, a priori, ils n'ont pas fait, je ne sais pas. Ils n'ont pas fait Pessah dans le désert. Et donc, qui est-ce qui a raconté la première fois? Qui, Caleb, Yeshua? clé de ces deux-là qui pouvaient raconter comment c'était. Ou alors les femmes. Ou alors le premier scénario, il a été donné par les femmes. Voilà, on s'arrêtait là.
Merci.